Bonjour, excusez-moi. Alors, je rappelle que c'est l'avant-dernier cours aujourd'hui. Il y aura encore. Le dernier cours sera la semaine prochaine, le 31 mars. Nous parlons de l'impermanence, donc du temps qui passe. Je vous rappelle que l'impermanence, enfin, je n'ai pas regardé récemment, mais c'est un terme qui n'est pas dans les dictionnaires français, n'est-ce pas? Mais il devrait y être parce qu'il est très pratique pour traduire cette notion japonaise, enfin, extrême orientale et bouddhique. Donc, nous abordons le terme consacré, le cours consacré à la lecture d'une série complète. Ce sera le dernier cours consacré à une série complète. Et c'est l'avant-dernière série du recueil qui est consacrée à l'impermanence, Mujo en japonais. Nous pouvons considérer que c'est la dernière série véritablement thématique, c'est-à-dire qui répond à un thème classique répertorié dans les. Répertorié ou dont il est à l'origine d'ailleurs dans les différentes anthologies. Et parce que l'ultime série qui est consacrée au blanc, vous voyez, Haku, est un peu à part. Nous y reviendrons peut-être. Alors que pour la série Mujo, elle est très familière aux Japonais de l'époque, puisque nous avons vu il y a 2 ans que c'était un thème fréquemment repris dans les recueils poétiques impériaux, les Chokusenshu, et qui est bien identifié comme thème poétique japonais. Il est inutile de rappeler que c'est un thème profondément bouddhique que l'on trouve condensé dans une sentence qui est très très célèbre au Japon, que vous connaissez tous parce qu'elle est au début du Heike Monogatari, n'est-ce pas ? Shogyo Mujo, tous les conditionnés, tous les composés sont impermanents ou transitoires, n'est-ce pas ? Shogyo Mujo. Ce terme de Mujo, Tsunenashi en lecture kun, a un contraire. Et je voudrais que j'attire l'attention un instant sur ce terme. C'est le terme Joju, Tsunenisumu, qui demeure l'éternel demeurant, l'éternel subsistant, que l'on trouve très souvent dans la poésie à thème bouddhique, les Shakkyoka. On se rappellera peut-être, parce que j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, que ce terme, dans la poésie du Sutra du Lotus, est lié à la révélation de Shakyamuni, selon laquelle son entrée dans le nirvana n'était qu'un expédient destiné à encourager les êtres. Il n'a donc fait que se dérober à la vue des croyants, afin de leur montrer la possibilité d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre de Bouddha. Mais en réalité, il réside éternellement, Tsunenisumu, sur le mont des aigles, à prêcher la loi du lotus. Mais la formule ne se limite pas à la présence du Bouddha dans le monde, ce Tsunenisumu. Elle s'applique aussi à la présence universelle de la nature de Bouddha, Bushō, Hotoke no Seikaku, Bushō, dans l'ensemble des êtres. En réalité, la proclamation de l'impermanence des êtres et des phénomènes n'est considérée dans le bouddhisme du grand véhicule, et tout spécialement dans la scolastique du Tendai, que comme la première étape de la compréhension bouddhique. C'est un antidote à la conception naïve de la réalité du monde telle que la majorité des humains est censée la voir. Une fois que l'on a compris que les phénomènes sont transitoires, on peut se mettre en route vers l'éveil. Mais, ainsi que nous l'avons déjà rappelé il y a quelques années, à la lumière de la révélation du Sutra du Lotus, le monde même phénoménal apparaît aux fidèles sous son véritable aspect, Jisso, qui est précisément le contraire du Mujo, c'est-à-dire son aspect permanent, éternel, Joju. J'ai eu l'occasion de montrer par ailleurs que certains poèmes des recueils impériaux qui se trouvent dans la rubrique impermanence, ou notés sous le thème impermanence, sont en réalité l'affirmation poétique de son contraire. Nous n'allons pas entrer ici dans ces considérations, mais il faut les garder à l'esprit. Nous pouvons malgré cela remarquer qu'il est indéniable que les poèmes consacrés à l'impermanence sont incomparablement plus nombreux que ceux qui célèbrent le concept de Joju, de l'éternel. L'une des raisons en est sans doute que l'impermanence est un thème éminemment poétique qui va bien au-delà de la doctrine bouddhique et que l'on retrouve dans la poésie universelle. Ronsard, n'est-ce pas ? Tandis que l'affirmation poétique de l'éternité est un thème beaucoup moins accessible et exige soit un intérêt, soit une formation dogmatique. Gardons cependant à l'esprit que dans le Tendai, l'école Tendai, l'affirmation de l'impermanence ne se conçoit pas sans l'affirmation parallèle de l'éternité et de l'aspect véritable des entités comme réalité, Shōgō Jisō. En vous épargnant les détails de la démonstration, je vous soumets donc simplement ce poème de Shunzei, que nous connaissons bien, n'est-ce pas, pour l'avoir vu il y a plusieurs fois, il y a deux ans, donc 1114-1204, qui est un moine du Tendai. Ce poème est recueilli dans le Shinkokinshu. Je vous en donne le texte ici. Et je me permets de traduire de la façon suivante. Ce monde qui est le nôtre, Yononaka, ce monde qui est le nôtre, si en pensée de continuité, Omoitsu d'un été, nous l'observons, c'est une nuée blanche qui se fond dans le ciel vide. Omoitsu d'un été, évidemment, ça veut dire avec attention, sans discontinuer, mais je le traduis ainsi pour noter l'idée de méditation qu'il y a derrière. Donc, je le répète, n'est-ce pas, ce monde qui est le nôtre, si en pensée de continuité nous l'observons, c'est une nuée blanche qui se fond dans le ciel vide. Lu tel quel, il s'agit effectivement d'une impression poétique face à l'inconstance du monde. Mais si l'on prend garde à l'expression « ciel vide » de l'avant-dernier vers, expression dont je pense avoir montré que, sous sa lecture sino-japonaise « koku », j'en ai déjà parlé, elle fait référence à l'omniprésence de la nature de Bouddha, du Bushō, qui s'étend jusqu'à l'inanimé, nous pouvons alors lire ce poème comme tout le contraire de l'impermanence, mais bien comme l'affirmation selon laquelle le monde phénoménal de la première moitié du poème se fond dans l'universalité de la nature du Bouddha de la seconde partie. Cette interprétation est renforcée si l'on met ce poème en parallèle avec un autre composé par Shunzei sur le même thème et qui comporte précisément la locution Tsunenisum, demeurant éternellement. Mais nous le laisserons de côté ici. Il importait simplement de bien rappeler que l'idée d'impermanence en cette époque de Heian, toute pénétrée de doctrine bouddhique et tout spécialement de scolastique Tendai, ne saurait en rester à l'interprétation mineure de l'impermanence. Celle-ci n'est que la perception phénoménale d'une entité qui, à la lumière de la révélation du lotus, se change en son contraire. Les deux aspects sont solidaires l'un de l'autre, et le poète qui contemple l'impermanence des choses, pour peu qu'il se soit frotté de dogmatique Tendai, voit à travers elle la réalité vers laquelle elle tend. Nous verrons à la fin de la série que ces préliminaires ne sont pas tout à fait inutiles. Cette suite de poèmes sur l'impermanence comprend 9 citations de poétiques, 3 chinois, 3 poèmes chinois, 3 poèmes sino-japonais et 3 waka, ce qui en fait une série de longueur moyenne et remarquablement équilibrée, 3-3-3. Elle occupe bien sûr une place particulièrement importante, la dernière, si l'on considère que la série Haku est un peu à part. Disons que c'est la dernière série portant un intitulé bien répertorié dans les anthologies et compréhensible pour tous. La première citation est d'un poème chinois inconnu, dont le nom semble être Luo Wei, Raoui, Rai, n'est-ce pas, Rai. Le poème dont elle est extraite, cette citation, ne nous est pas non plus parvenue. Certains manuscrits l'attribuent à un autre poème, Luo Qiu, Rakyo, un poète de la fin des Tang, dont on a un recueil consacré à une belle courtisane du nom de Hong Er, l'enfant rouge, rouge. Mais toute la tradition, y compris les éditeurs modernes, semble réfuter cette identification. Voici donc cette citation, sans contexte, mais qui nous donne une claire idée de son contenu. Je la lis. Si l'on contemple le corps, c'est sur une pente escarpée, une herbe privée de ses racines. Si l'on considère la vie, c'est une barque qui n'est plus amarrée au rivage. Il y a une question de vocabulaire que nous résolvons simplement. Gaku, hitai, du premier vers, n'est-ce pas ? Vous voyez, kishi no hitai, évoque une surface plate sur une face rocheuse. Car gan, kishi, la rive, ne signifie pas forcément la rive, mais aussi le flanc escarpé d'une montagne. Cette citation est importante dans l'histoire de la littérature, en ce que Izumi Shikibu, l'ennemi intime de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas, que vous connaissez, dont nous avons la chance de posséder le journal, n'a pas consacré moins de 43 poèmes à ce passage dans son recueil personnel, le Izumi Shikibu Shu, ce qui renforce l'association de cette citation avec l'idée d'impermanence. Bien que nous voyions que l'original chinois décrive plutôt l'instabilité de la condition humaine que le manque de consistance ontologique tel qu'il est exprimé dans une sentence comme Shogyo Mujo. Bien qu'Eisai, ce commentateur que nous citons toujours, n'est-ce pas, dont nous faisons la référence centrale, qui est sans doute du début de Kamakura. Bien que Esai donc ne dise presque rien de ce poème, les trois mots d'explication qu'il suggère avec précaution sont évocateurs, et nous les trouvons amplement développés dans une autre édition du Loeishu, sur laquelle je ne m'attarderai pas. Ces trois mots sont le rat de la lune, Tsukinonezumi, que vous avez ici en quatrième ligne. Ce qui nous met bien sûr la puce à l'oreille, si j'ose dire. Et l'un des manuscrits du Loeishu, qui est le Shōryōbuhon, nous donne la version longue de cette allusion à une histoire bien connue qui a fait son chemin jusqu'au bout du monde chrétien à travers la légende dorée. Il s'agit d'un homme poursuivi par un tigre. Alors, je vous résume ici la narration telle qu'elle est dans le Shōryōbuhon, n'est-ce pas ? Donc, il s'agit d'un homme poursuivi par un tigre, alors que dans la citation de Sutra que je vous donne, que nous verrons très rapidement, nous n'aurons peut-être pas le temps de la voir, il est poursuivi par un éléphant et qui arrive au bord d'un précipice, Iwanokishi, voyez-le. Et il y aperçoit au fond un crocodile. Alors, Wani, dans la narration, est un dragon empoisonné, même Dokudyu, dans le Sutra. Un crocodile, donc, qui l'attend la gueule grande ouverte. Il s'accroche à une liane dont la racine est rongée par deux rats noirs, deux rats, l'un noir, l'autre blanc. Le commentateur nous dit que c'est l'illustration de l'impermanence du monde et nous le croyons sans peine. Si vous regardez le passage plus développé tiré du Binzuru Seppokyo, dont je vous donne les références ici, vous voyez que ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas, puisque continue avec la célèbre précision, donc il tombe dans le trou, dans l'abîme, dans le précipice, et il dans un puits, donc, et où vous avez donc les rats, et il est entouré, lui, dans l'abîme où il se trouve, de quatre serpents, et qui essayent de le mordre, n'est-ce pas ? Et au fond, il y a ce Dokudyu, la quatrième ligne, l'empoisonné. Donc, il y a un serpent qui l'attend au fond, un éléphant furieux au-dessus, quatre serpents autour de lui. Et il s'accroche à une liane qui est reliée à un arbre, n'est-ce pas, enfin, et à la branche pendante d'un arbre, et en secouant l'arbre, il y a justement un nid d'abeilles dans l'arbre, et il y a des gouttes de miel qui tombent, n'est-ce pas. Et en goûtant ce miel, alors ce n'est pas dit exactement comme cela ici, mais il goûte le miel et le miel lui fait oublier sa condition. Et dans ce Binzuru Seppokyo, il y a un détail qui n'apparaît jamais et auquel on pourrait penser aussi, s'il y a du miel, il y a des abeilles, n'est-ce pas ? Et ça n'apparaît presque jamais dans les narrations que j'ai pu trouver. Ici, vous avez en effet, vous voyez, vers le Tokini, n'est-ce pas ? À ce moment, Kiyogakashite, en faisant bouger l'arbre, il détruit le nid d'abeilles. Et les abeilles furieuses commencent à le piquer, n'est-ce pas ? Et en plus, il y a un feu qui se déclare dans la brousse. Enfin, vous voyez qu'il est très mal parti. Mais la narration qui nous occupe ici s'arrête simplement au fait qu'il soit tombé dans le précipice. Comme nous pouvons le voir, n'est-ce pas, de voir dans cette citation, le lien entre cette poésie chinoise et la parabole bouddhique qui est derrière est fort ténu. Il n'est lié que par ce Kishin no Hitai, n'est-ce pas. Il était en tout cas bien établi à l'époque de Izumi Shikibu, puisqu'on trouve dans son recueil poétique 43 poèmes consacrés à ce thème, justement, autour de cette citation chinoise. C'est-à-dire, les 43 poèmes sont faits autour de cette citation chinoise. Et il y a d'ailleurs dans l'un des poèmes la phrase « Iwa no Kakemichi », c'est-à-dire la dernière que je donne ici, n'est-ce pas, « Iwa no Kakemichi », qui est le chemin escarpé dans les rochers, qui fait clairement allusion à cela. D'ailleurs, Izumi Shikibu est à peu près contemporaine de Kinto. La seconde partie de la citation, en revanche, sur Tsunagaraza le Fune, est plus perceptible, puisqu'il s'agit d'une reconnaissable, puisqu'il s'agit d'une citation tirée de je vous donne ici la version latine de la légende dorée, si quelqu'un veut aller la voir, n'est-ce pas, dans l'édition de Grèce, qui est assez facilement disponible. On la trouve page 816. Donc, on trouve dans le chapitre Zabien, n'est-ce pas, dans la troisième partie de Chuangzi, sous le chapitre Lieyuko, Letsugyoko, c'est-à-dire Lietze, il y a un passage où Lietze, le sage, se fait morigéner par l'un de ses amis de bien, dirait les bouddhistes, de la façon suivante, ce que je vous donne en bas, n'est-ce pas. Les habiles s'activent et les sages s'attristent. Les incapables n'ont plus rien à rechercher. Ils se rassasient et flânent ou errent sans but. Ils dérivent comme une barque sans amarre. C'est vainement qu'ils se livrent à cette errance. Ici encore, et bien plus que dans les vers précédents, ce n'est pas l'impermanence qui est au centre du passage de Chuangzi. Tout tourne autour de l'attitude que le sage doit avoir à l'égard de son entourage et du monde en général. C'est une réflexion sur la place du sage dans la société. Si nous considérons les deux vers dans leur rapport mutuel, nous voyons qu'ils considèrent l'un et l'autre littéralement les hommes déracinés, ceux qui vont à volo, qui ne sont pas solidement reliés à une base ferme. Mais la connotation bouddhique paraît, vous le voyez, assez faible. Cela ne rend que plus intéressant de constater l'action des commentateurs qui ont manifestement commencé très tôt et avec efficacité à bouddhiser cette citation. Et ne l'ont certes pas fait sans y être incité par le recueil lui-même, puisqu'il s'agit du premier poème de la série sur l'impermanence, ce qui ne peut que signifier que le poème était ainsi compris avant même d'être choisi par Kinto. Nous avons ici une énigme mineure, en quelque sorte, dans la constitution de cette série. Mais il est en même temps bien dans la continuité de la méthode de Kinto de commencer une série thématique par une citation quelque peu en décalage, qui va lui permettre de constituer l'enchaînement d'une façon dynamique et presque narrative, ainsi que nous allons le voir. La seconde citation se fait en effet plus précise dans son rapport avec le thème. Elle est attribuée à un célèbre poète Tang qui fleurit au moment où l'impératrice, l'usurpatrice, Wu Zetian, n'est-ce pas, Sokuten Buko, régnait sur la Chine. Ce poète s'appelait Song Zhiwen, Suo Shimon, mort vers 712. Il eut une vie assez tourmentée et peut-être assez peu honorable, si l'on en croit ce qui est rapporté à son sujet. Cette citation fait d'ailleurs partie de sa mauvaise notoriété, puisqu'une tradition assure que ce vers aurait été plagié par l'auteur dans des conditions particulièrement sordides. Il aurait été en effet si frappé d'admiration par ce distique, qui figurait dans un poème écrit par l'un de ses proches parents, du nom de Liu Qi, dont on connaît bien les dates, 651-679, qu'il lui aurait demandé instamment de les lui céder, ce que refusa l'artiste passionné et hédoniste qu'était Siyi, qui ne pouvait s'abaisser à de si viles tractations. Le résultat fut que Song Zhiwen le fit assassiner par l'un de ses serviteurs. La conséquence est donc paradoxale. Zhiwen, Shimon, survit au Japon essentiellement grâce à cette citation, qui est en même temps le prétexte à rappeler sa ville Ni, ce qu'Esai, par exemple, ne manque pas de faire. Par certains côtés, le long poème de 26 vers d'où ce distique est tiré rappelle le prologue du Hōjōki, comme le second vers cité ici. Mais Song Zhiwen fait intervenir aussi dans sa description des changements. Il fait intervenir en dehors de la description des changements qui frappent la capitale, Luoyang, un peu comme Kamo no Chome décrit ceux de l'ancienne Kyoto, n'est-ce pas ? Il fait intervenir aussi l'altération de la beauté féminine, aux côtés des champs de mûriers qui deviennent des mers. Donc il ne s'intéresse pas seulement aux changements géographiques, sociaux, etc., mais aux changements individuels aussi. Alors que l'on serait bien en peine de trouver une allusion aux femmes dans le texte de Kamo no Chome. Il est certain que nous sommes bien ici dans une description et une déploration de l'impermanence universelle. Encore qu'elle soit dans la citation même quelque peu ambiguë, je vous la donne. « D'une année à l'autre, les fleurs se ressemblent, D'année en année, les hommes ne sont plus les mêmes. On a l'impression que les fleurs sont plus permanentes que les hommes ici. Nul doute que l'on se demandera à lire notre traduction en quoi ces vers pouvaient justifier un assassinat. Mais la question n'est pas là. Nous constatons que la dynamique de la série se précise et que nous n'avons nul besoin d'évoquer une parabole bouddhique pour mettre en lumière le rapport du distique avec l'impermanence. Nous pourrions considérer que la troisième citation, qui est de Pojuyi, constitue une sorte de synthèse des deux premières, en ce qu'elle rapproche la futilité des affaires humaines, qui était plutôt le sujet du distique de Luo Wei, et la déplorable brièveté de la vie humaine, qui était le thème de l'autre. Nous remarquons aussi qu'elle prolonge la première citation dans son allusion à Chuangzi, n'est-ce pas, par une nouvelle allusion à Chuangzi que je vous donne ici, pour se moquer de la petitesse des affaires humaines, même les plus grandes. Donc, sur ces cornes d'escargot. Ah, pardon. Alors, je vous donne la citation ici, mais je vais l'expliquer. Je vous donne d'abord la traduction du poème, n'est-ce pas ? Donc, c'est la seconde citation que vous avez ici. « Sur des cornes d'escargot, pourquoi allez-vous combattre ? Nos personnes ne sont que ce que dure l'étincelle de la pierre à feu. » C'est le premier distique d'un quatrain faisant partie d'une série de cinq poèmes de Pojuyi sur le vin. Le second distique, d'ailleurs, qui est entre parenthèses ici, est plutôt encourageant et n'a pas cette même tonalité, n'est-ce pas ? Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, prenons du bon temps. Bien folle est celui qui ne rit pas à gorge déployée. Il est important de donner ce second distique en hors-texte, car nous allons le voir bientôt, les citations qui suivent vont essayer de diminuer l'enthousiasme de cette conclusion. En tout cas, l'allusion aux deux royaumes qui se combattent d'une corde d'escargot à l'autre, les deux royaumes s'appelant l'un collusion, n'est-ce pas, Shokushi, et l'autre barbarie, Man Banshi. Donc, cette citation se réfère aux affaires des hommes, à la futilité des enjeux politiques, tandis que l'étincelle du silex est bien sûr l'impermanence à proprement parler. Là encore, un certain décalage. La citation de Pojuyi fait donc bien la synthèse des deux premières, et nous allons voir comment son sous-texte va faire l'objet d'une réponse dans la suite. La quatrième citation, la première des poètes sino-japonais, vient du pinceau de Oe no Asatsuna, mort en 957, que nous avons déjà rencontré comme l'un des poètes de style chinois les mieux représentés dans le Wakan no Ueshu. Nous ne revenons plus sur ce grand lettré, et nous nous arrêtons sur son œuvre, qui est elle aussi consignée dans le Honcho Monzui, et qui était une proclamation de vœux, un gammon, à l'occasion de la cérémonie du 49e jour, n'est-ce pas, la période intermédiaire, Chuin ou Chuon, après le décès de l'épouse du prince impérial Nakatsukasa. Le genre littéraire est bien sûr, duquel le gammon, et surtout le gammon pour une cérémonie funéraire, est bien sûr éminemment propice au rappel de l'impermanence. Et cette fois, nous avons le mot explicitement mentionné dans une description poignante de la mort dont je tire simplement ces deux phrases. Passé la cinquième veille de la nuit, c'est celle qui est entre parenthèses, passé la cinquième veille de la nuit, elle finit par dire adieu à cette vie si limitée, c'est la femme du prince. Au premier chant du coq à l'aube, elle aborda à jamais la séparation de l'impermanence. Mujo no wakane, ni nozomeli. Les deux phrases retenues par le compilateur ne sont pas sans rappeler, pour la première en tout cas, l'un des deux poèmes de Shunze dont je parlais tout à l'heure. Ce poème que je n'avais pas cité, que je vous donne ici, n'est-ce pas ? Tsune ni sumo washi no miyama no tsuki danimo omoi shiretozo kumo ga kurekeru. N'est-ce pas ? Même la lune elle-même qui brille sur le mont des aigles et demeure éternellement, c'est le Bouddha bien sûr, Omoi Shiretozo, dans le désir d'enseigner aux hommes, n'est-ce pas, réfléchissez-y, elle-même donc s'est cachée derrière les nuages. Vous voyez, la lune éternelle se cache, mais ce n'est qu'une montrance. Donc, nous avons ici citation de Asatsuna, la même ambiguïté du message. Ce qui prend naissance finit toujours par disparaître. Shakyamuni lui-même n'a pu échapper au bûcher de Santal, du bois de Santal. Le plaisir venu à terme survient à la tristesse. Les dieux eux-mêmes en arrivent au jour des cinq signes de déclin. Nous retrouvons bien sûr ici les accents du Shogi Omujo évoqués plus haut, auxquels le Bouddha lui-même n'a pu échapper. Et vous voyez d'ailleurs le Shoja Hisui en changeant légèrement les caractères, vous avez le Shoja Hisui qui suit la citation Shogi Omujo dans le Heike Monogatari. Nous retrouvons donc ces accents du Shogi Omujo auxquels le Bouddha lui-même, n'est-ce pas, comme la lune tout à l'heure, n'est-ce pas, la lune fait montrance de disparition comme le Bouddha. Nous savons bien sûr que ce qu'il en est exactement. C'est pour s'adapter au monde phénoménal que Shakyamuni a eu recours à ce qu'il faut bien appeler un simulacre. Il conviendrait de citer tout le Nyorai Jyōryōkon, d'ailleurs le 16e chapitre du Sutra du Lotus, pour illustrer ce propos. Et je n'en retiendrai qu'une phrase, celle qui est donnée entre crochets après la citation, n'est-ce pas ? Jōjū fumetsu, je demeure en pérennité sans disparaître. Car il faut se garder d'oublier, comme continue le Sutra, l'ainsi venu a un savoir et une vision, vous savez, Butchiken, n'est-ce pas le Chiken que nous avons déjà vu, l'ainsi venu, le Nyōrai, a un savoir et une vision des aspects des trois mondes conformes à la réalité. Il n'y a ni naissance ni mort, ni retrait ni émergence, personne pour demeurer au monde, ni passer en disparition. Ils ne sont ni réels, ni inan, ni dépourvus de réalité, n'est-ce pas, ni ainsi, ni autrement. Ils ne voient pas les trois mondes comme les trois mondes. Aucun des lecteurs de Hoe no Asatsuna n'ignore tout cela. C'est un cas typique, donc, de texte qui s'annule lui-même en son sens profond, mais qu'on en accepte temporairement, kalini, par convention littéraire, de prendre au sens littéral. Il n'en va pas de même, en revanche, bien que ce soit une vérité assez difficile à constater d'expérience par nous-mêmes, puisqu'on en voit assez peu, pour ce qui concerne les cinq signes de déclin des êtres vivants. Ils ne sont pas allégoriques, mais bel et bien réels. Et cette seconde proposition illustre la sentence « Shoja Shisui » qui fait pendant à « Shogi Omujo ». Pour les cinq signes de déclin, je ne vous les ai pas donnés là. Vous savez que les dieux ont les dieux du bouddhisme, les devas, n'est-ce pas, pas les kamis, il faut faire une différence entre les deux, les dieux bouddhiques, donc les dieux indiens, ont une existence très 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 longue, mais malgré tout limitée, et lorsque cette existence arrive à terme, elle se manifeste par des signes, ce qu'on appelle les gosui, n'est-ce pas, les cinq signes de déclin, qui sont tout à fait... vous en avez plusieurs, là, les principaux, donc ce sont les fleurs de leur couronne qui se flétrissent, ils se sentent mal à l'aise sur leur siège, sur leur trône, ils gigotent sur leur trône, leurs vêtements commencent à prendre la poussière et à sentir, leurs vêtements commencent à prendre la poussière, leur corps commence à sentir, et ils ont de la sueur sous les aisselles. Donc nous allons passer rapidement là-dessus. Cependant, on ne peut qu'être intrigué par la note qu'ajoute Eisai, toujours lui, à ce passage si résolument bouddhique, car aussitôt après avoir réaffirmé l'origine canonique de la sentence Shoja Shitsumetsu, il nous rappelle que le Paopuzu, qu'on a déjà vu plusieurs fois, le Hobokushi, cette encyclopédie taoïste du IVe siècle, est rédigée par Gehong Kakko, affirme « Ce qui a un commencement a toujours une fin ». Ce qui a existence finit toujours par disparaître. Alors que nous avons vu plusieurs fois que Eisai tenait à ajouter une glose tirée d'un texte bouddhique à une citation ouvertement taoïste, nous voyons aussi qu'il peut faire l'inverse. Nous sommes donc bel et bien, une fois encore, en présence de la préoccupation que nous avons déjà vue exprimée dans les préfaces lues en séminaire, préoccupation consistant à lire ce recueil poétique, le Wakan no Eishu, comme un itinéraire descriptif du monde passant par les trois doctrines, les Sangyo, la précédence allant forcément à la doctrine bouddhique. Nous sommes ici encore, avec cette glose de Eisai, témoins du besoin de mettre en harmonie les doctrines externes, que sont les Gekkyo, et la doctrine interne, le Naikyo, le bouddhisme. La seconde citation sino-japonaise pose un problème d'attribution dans lequel nous n'entrons pas, n'est-ce pas ? La traduction manuscrite quasi unanime l'attribue à Fujiwara no Yoshitaka, qui est mort très jeune, 954-974, mort de la variole, le même jour que son frère, dit l'histoire. Il a malgré tout laissé un recueil personnel. Il fut compté au nombre des meilleurs poètes de son temps et l'un de ses poèmes est inclus dans le Fiaconinische. Cette citation nous donne l'occasion d'apprécier le subtil talent de compilateur de Quinto. Elle se rattache en effet aux précédentes de deux façons, l'une explicite, l'autre implicite. Le titre sous lequel elle est donnée est « Proclamation de vœux pour une période intermédiaire ». Vous voyez ici « Chewing Gum ». Ce qui rappelle explicitement le titre du Gum précédent, où nous avions Shizukunichi. Le Gamon, donc la proclamation de vœux de Oe no Asatsuna de tout à l'heure. La seconde résonance, en revanche, voire une troisième d'ailleurs, est en hors-texte. Voici donc cette citation. « Au matin, les fraîches joues éclatantes faisaient sa fierté sur les voies du monde. Au soir, ses eaux blanchies pourrissent sur un terrain vague. » Kōgen, n'est-ce pas la plaine à la limite de la ville, la plaine de banlieue, la zone, comme dirait Coluche. Essai rappelle qu'il s'agit de la mort d'une dame de cour de haut rang. Nous voyons en tout cas que les belles joues roses, Kōgen, se trouvent déjà dans le poème de Song Jewen, Shimon, dans la partie non citée, et que je vous donne ici après Kōgen, n'est-ce pas ? Voici ce que disait Shimon. « Ce vieillard à la tête chenue fait vraiment pitié. » Dire qu'autrefois c'était un beau jeune homme aux joues fraîches. Remarquons en passant que l'expression qui ferait plutôt penser en Europe à une description féminine s'applique ici aux deux sexes, bien que le plus souvent elle s'emploie pour les femmes. Une troisième résonance, possible mais fort ténue, serait encore avec la citation précédente où Asatsuna, poursuivant sa triste description du mariage interrompu par la mort, disait, et c'est l'avant-dernière ligne de citation ici, la promesse de vieillir ensemble cent ans durant n'était rien d'autre qu'une fleur sur la voie des rêves. La locution que nous avons, muro, pour yumeji, n'est-ce pas, yume no michi, du texte de Asatsuna, annonce le sero yo no michi de Yoshitaka et le commente, pour ainsi dire. Les voies du monde sont aussi peu fermes que les voies du rêve. Aussi ténue qu'elle puisse sembler, la correspondance est bien là. Et le contexte ne peut que nous engager à penser qu'il n'a rien de fortuit, ce d'autant plus que nous allons retrouver le rêve dans la citation suivante. Avec ce dernier fragment sino-japonais, nous retrouvons Oe no Asatsuna dans un huitain dont un distique avait déjà été cité dans la série sur les singes que nous n'avons pas eu le temps de voir. Ce poème, intitulé « En raccompagnant un moine qui part » qui repart vers son temple de montagne, Yamanikaeru So Okuru, contraste la sérénité du moine qui regagne son lieu de méditation avec l'esprit inquiet de celui qui l'accompagne, encore en proie aux tentations du monde. Il convient d'ailleurs de remarquer que le cri des singes qui retentissent tout autour de la frêle passerelle de planches par Kakehashi, qui est décrite dans le poème, ces planches, ces espèces d'allées de planches le long du flanc de la montagne, et qui peut encore être une allusion aussi au kakemichi que nous avons vu tout à l'heure. Ces cris du singe donc font une allusion manifeste à l'expression bien connue bouddhique, n'est-ce pas ? Shien iba, le kokoro no saru et Ishiki no Uma, n'est-ce pas ? Donc, Kokoro no Saru, c'est le singe qui est la pensée, qui est l'esprit de l'homme, qui ne peut jamais s'arrêter à un objet et qui va d'objet en objet comme le singe saute de branche en branche. Donc, c'est la pensée tiraillée entre les divers attraits mondains. Par exemple, comme dit le vers, un vers qui précède, lorsque le moine repart fièrement drapé dans sa robe de moine et brandissant sa canne à anneau, son shakujo, n'est-ce pas, le poète, lui, comme dit le premier vers que vous avez entre parenthèses ici, entre crochets ici, il retournera à la honte de ses passions terrestres. Et le kujin no jo, c'est hazuru no kujin no jo ni kaeru, n'est-ce pas, shini wa karete Hazukashi, Dokujin no jo ni kaeru. Et vous voyez qu'il emploie le caractère Hazukashi, qui s'écrit normalement avec Dishimben, n'est-ce pas, la clé du cœur, avec le dragon, l'ogre à côté, le démon à côté, Dishimben ni Oni. Ici, c'est Onnahen ni Oni. C'est une variante bien attestée, mais elle est attestée aussi dans ce poème même. Elle semble bien être le propre de l'auteur. Et en mettant la clé de la femme, il dit à quelle tentation du monde il retourne, n'est-ce pas? Alors, c'est ici qu'intervient ce distique, après. Bien que je contemple le reflet de la lune d'automne dans les vagues qu'est le monde, le reflet de la lune d'automne dans les vagues qu'est notre monde, je ne peux échapper à la renommée d'une fleur de printemps vue en rêve, qu'est mon ambition. Le premier vers, avec le verbe kanzu, midu, kanzu, qui signifie la contemplation et avant tout l'observation, le discernement, est en opposition avec le second. Son amitié avec le moine a certes permis au poète de comprendre la vanité et l'impermanence, et c'est d'ailleurs le titre du poème dans certains manuscrits, comme vous avez ici, Mujo, mais les passions des six poussières mentionnées au vers précédent l'empêchent d'y échapper. Les six poussières, ce sont évidemment les six passions, les six sortes de passions qui se concrétisent sur chaque objet de nos sens. Et n'oubliez pas que le sixième sens dans le bouddhisme, c'est l'esprit, c'est le ishiki, la pensée. Tous les commentateurs remarquent que le premier vers du distique est une probable allusion, n'est-ce pas, avec ce Shugetsu no Kage, le reflet de la lune d'automne, est une probable allusion à l'une des six comparaisons, des Rokuyu, du Sutra de Vimalakirti, du Yuimagyo, c'est-à-dire Suichu Getsu Mizu no Naka no Tsuki. Encore qu'il faille reconnaître que l'image est si omniprésente dans la littérature bouddhique qu'il semble exagéré de l'imputer directement au sutra ici. On peut cependant estimer que l'usage du verbe « kan », terme presque technique du bouddhisme, donne à penser que nous sommes plus loin que dans une simple métaphore littéraire. Asatsuna se réfère à l'enseignement ou à la pratique du moine, ce qui rend probable que nous devions bien lire « Suichu Getsu » par-delà l'expression plus développée du poème. C'est en tout cas l'avis de Heisai et de ses commentateurs anciens. Je vous rappelle que les six comparaisons du Sutra de Vimalakirti, n'est-ce pas, c'est Maboroshi, n'est-ce pas, le mirage, le Inazuma, la Den, l'éclair, Yume, le rêve, Hono'o, la flamme, le feu follet, peut-être plutôt ici, et vous avez les deux dernières expressions, Suichu Getsu, donc Mizu no Naka no Tsuki, et Kyochu Zo, Kagami no Naka no Zo, l'image dans le miroir. Mais le même Heisai ne s'arrête pas là. Il nous indique aussi que le second vers se réfère à Chuangzi, encore une fois. J'avoue ne pas être sûr de ce à quoi il fait allusion. Mais il est en revanche, à moins que ce soit évidemment l'épisode du rêve dans le papillon, le rêve du papillon dans Chuangzi, ce qui est possible. Mais il est en revanche indéniable que ce second vers a bel et bien une tonalité taoïste. La renommée en rêve, et remarquons que Asatsuna altère les termes de la même façon que pour la lune dans l'eau, de façon à en masquer légèrement l'origine. Vous voyez que c'est donc c'est Shunka no Uchi no Na, c'est donc c'est Haru no Hana no Yume no Uchi no Na, donc c'est légèrement retransformé. Cela renvoie directement au premier poème de la série sur les demeures d'immortels, vous en souvenez peut-être, avec le distique de Yuan Zhan, où il parlait de « les honneurs dans le rêve ne durent que du matin au soir ». L'allusion semble ici assez claire. L'identité ne peut être fortuite. Nous retrouvons la préoccupation de Kinto d'inclure des poèmes qui soient à la fois des ouvertures sur le bouddhisme et le taoïsme. Mais nous devons prendre garde aussi à la place des citations dans chaque séquence. Dans cette séquence sino-japonaise, nous avons d'abord vu l'impermanence attribuée à la plus haute existence qui soit, celle du Bouddha, puis des dieux. Nous sommes ensuite descendus à la dimension la plus proche, qui est la nôtre, sous la forme des os pourrissants, kutsu, n'est-ce pas, kutsiru hone. Et bien sûr, tout le monde pensera ici à Ono no Komachi, n'est-ce pas, la poétesse de Ono no Komachi, qui est décrite comme dans ces séries de huit images, où vous voyez son corps de beauté splendide, dépérissant, pourrissant peu à peu pour ne plus devenir que des os blanchis, thème qui a été bien sûr traité par notre ami François Lachaud, La jeune fille et la mort. Donc, cette dernière citation nous laisse en quelque sorte, après les deux autres, en suspens. Le poète est conscient de l'impermanence et de la vacuité de nature propre, Jishoku, qui est la même chose que l'impermanence, n'est-ce pas, Mujo et Jishoku, mais il reconnaît qu'il ne peut encore s'en détacher. La tonalité générale de la séquence de style chinois est donc bouddhique, certainement. Mais il est tout aussi important de remarquer la claire présence du taoïsme aux côtés du bouddhisme. Cela est quelque peu paradoxal, car nous savons bien, après la série sur les demeures des immortels, précisément, que ce que recherchent les adeptes du Tao, c'est l'immortalité physique et la possibilité de vivre éternellement dans les îles des bienheureux ou dans les grottes ciel. Mais nous pouvons comprendre sans peine l'intention du compilateur. Ce qui était pour les taoïstes démonstration de la relativité de ce que le vulgaire considère comme un absolu, que ce soit les catégories spatio-temporelles ordinaires ou la renommée littéraire aussi bien que politique, tout cela donc avait pour but d'indiquer la vraie voie qui peut apparaître comme transcendant le monde. Mais pour les taoïstes, c'est le dépassement du monde vulgaire. Les demeures des immortels sont encore dans des lieux terrestres ou autour de notre monde connu, mais des lieux identifiables, que ce soit les noms des montagnes, des différentes montagnes, ou bien les îles fortunées qui sont dans la mer de l'Est. Le bouddhisme peut faire sienne cette démonstration, mais les moines savent bien que la voie bouddhique les mène bien au-delà de la voie taoïste. C'est à peu près la position de Kukai dans la convergence des trois enseignements, le Sangoshi, qui peut reconnaître la supériorité du taoïsme sur le confucianisme, mais se garde bien de le mettre sur un pied d'égalité avec le bouddhisme. Ainsi, dans cet enchaînement, il est indéniable que le taoïsme constitue une sorte de compagnon de route pour le bouddhisme, en ce qu'il permet de découvrir l'insuffisance de la perception vulgaire du monde, mais il est tout aussi indéniable que les deux doctrines ne mènent pas leurs adeptes respectifs à un terme semblable. Seul le bouddhisme peut mener jusqu'au bout de la compréhension de l'impermanence. Ainsi, la séquence de style chinois a permis à la fois de rendre compte de la mesure dans laquelle le taoïsme peut accompagner le bouddhisme, tout en montrant les limites. Comme de coutume, pouvons-nous dire à présent que nous avons déjà survolé une partie significative du recueil, la séquence japonaise va apporter son lot de surprises. Il s'agit d'une séquence de trois poèmes qui se déroule selon un crescendo bien déterminé et facilement déchiffrable. Le premier est très célèbre, puisqu'il fut ensuite consigné dans le Hyakunin Ishu. L'auteur en est celui que l'on appelle Sami Manze ou Sami Manze, c'est-à-dire Manze, le moine novice, Sami, ou que l'on prononce plus correctement Shami dans les textes bouddhiques, mais c'est japonisé en Sami, c'est l'abréviation de Shramanera, n'est-ce pas, celui qui commence à faire effort dans la voie, le futur Shramana. Donc ce Manze était entré dans les ordres assez tardivement, d'où son surnom, n'est-ce pas, mais il eut malgré tout des fonctions ecclésiastiques importantes, dont l'une est datable de 723, ce qui nous mène au début du 8e siècle. Vous voyez que c'est un poète très ancien. Sept de ses poèmes sont consignés dans le Manyoshu, dont celui-ci d'ailleurs sous un énoncé légèrement différent que nous n'avons pas abordé et qui est grosso modo la même chose. Et il fut repris dans plusieurs autres anthologies. La voici, tout le monde la connaît, n'est-ce pas ? Ce monde qui est le nôtre, à quoi le comparer ? Au petit jour, une blanche écume tracée par la barque qui s'éloigne. Je laisse tomber ici Kogi Yuku, qui s'éloigne à la rame, parce que ça me semble que ça fait tomber un peu le poème dans un aspect un peu trop descriptif. Donc ce poème très simple et très beau se passe de commentaires. Il est souvent cité comme l'une des premières expressions poétiques japonaises du sentiment de l'impermanence. En lui donnant la première place dans la séquence japonaise, Kinto se met aussi dans une perspective historique. Ce poème résume, à date très ancienne au Japon, l'essentiel de ce qui est décrit précédemment par les poèmes de style chinois, que ce soit du point de vue bouddhique ou taoïste. Nous remarquons que le contenu bouddhique du poème est à peine esquissé. Il faut remonter à l'autre série bien connue des six comparaisons, vous avez en général, lorsqu'on parle des Rokuyu, n'est-ce pas, et parfois d'ailleurs on dit Rikuyu pour faire bouddhique, alors que c'est le contraire, mais je n'entre pas dans ces détails. Donc l'autre série de six comparaisons est celle donnée dans la Vajracchedika, n'est-ce pas, le Kongokyo. À la fin, vous avez ce célèbre quatrain de la fin du Kongokyo, où on vous redonne les Issai Uiho. Vous avez ici les Ui que vous avez dans le Iroha no Uta, n'est-ce pas, Ui no Okuyama. Ce sont les composés, le monde fait de composés. Et c'est pratiquement synonyme de Shogyo, pour la plupart des Japonais en tout cas. D'ailleurs, même en sanskrit, les deux noms sont faits sur des racines semblables. Je ne vais pas plus avant. Mais vous voyez que les six comparaisons ici, c'est Yume no Gotoshi, Maboroshi, Utakata ou Awa, n'est-ce pas ? Donc c'est le rêve, le mirage, l'écume, Kange, le reflet, et aussi la Tsuyu, n'est-ce pas, la rosée, et l'éclair, encore une fois. Donc ça recoupe, mais pas tout à fait, les Rokuyu du Vimalakirti. Et vous voyez que ici donc ce Shiranami peut en effet rappeler les bulles ou l'écume du Kongokyo. Et alors il y aurait donc quand même une citation, une intentionnalité vraiment bouddhique, mais qui est en plus bien sûr précisée par l'identité même de l'auteur, qui est un novice, n'est-ce pas, un sami, ou bien ici, vous voyez que Manze Hoshi, on le donne ici comme maître du dharma, donc au-delà d'un sami. Rappelons encore un trait remarquable du poème dans ses rapports avec le recueil, c'est qu'il comporte l'emploi explicite du verbe tatou, n'est-ce pas, nani ni tatouen, à quoi allons-nous le comparer, qui renvoie non seulement, comme on pourrait le comprendre, aux hésitations de l'auteur, du poète, qui cherche une image adéquate, mais aussi et surtout aux multiples citations bouddhiques que nous avons vues dans lesquelles la conduite du Bouddha, le Butsuji, se définit par l'emploi des narrations innen et des comparaisons ou métaphores hiyu. La pièce de Manze se place ainsi aux côtés des très nombreux fragments et citations du recueil qui contiennent des termes signifiant la comparaison et qui s'inscrivent de cette façon dans le projet bouddhique tel qu'il est résumé par Po Chuyi, je le répète encore, transformer les spécieuses paroles poétiques en éloges du véhicule du Bouddha, ce qui est le propre de l'œuvre de Bouddha, de la conduite de Bouddha, de Butsuji. Une fois encore, nous sommes ici confrontés à un problème de classement, après ce qui va suivre, que nous allons tenter de résoudre en suivant la logique que nous avons prêtée à Kinto, logique fondée sur sa connaissance de la doctrine bouddhique. Il y a tout d'abord un poème adventis, dans certains manuscrits seulement, et que le professeur Sato, l'auteur de la dernière édition du Roeshu, nous donne malgré tout. Je le reprends pour au moins deux raisons, en dehors de sa beauté. Tout d'abord, il se trouve à l'origine dans le Kokinshu, les poèmes de jadis et de naguère, d'autrefois et d'aujourd'hui, sans nom d'auteur, au second livre des miscellanées, Zoka. Dans une longue série de poèmes, le premier de cette série étant le poème 933, qui commence par les mots Yononaka wa nanika tsune naru. Qu'est-ce qui peut être éternel dans ce monde où nous sommes, dans ce bas monde, qui annonce suffisamment la teneur de ce qui suit. Il faudrait d'ailleurs citer presque tout le livre de ce Kokinshu, dont presque chaque poème comporte l'expression ukiyo, ce monde de souffrance, ce monde sinistre, ou bien une variante des mêmes mots comme yono ukikoto ou yono yo yo ushiyo, n'est-ce pas, etc. C'est une variante de l'adjectif, ou bien encore des mots comme yume ou hakanashi, c'est-à-dire le rêve ou bien ce qui est éphémère. Or la seule chose qui soit bouddhique dans cette longue série du Kokinshu, qu'on pourrait presque appeler des shakkyoka, avant l'heure, n'est-ce pas ? On ne les appelle pas Shakyoka, mais c'est pourtant vraiment des, une série de poèmes à thème quasiment bouddhique, mais ce thème bouddhique est uniquement fondé sur l'impermanence, sur le, donc le mujo bouddhique. Cependant, donc, ce poème qui est donné ici en variante de la, en variante de la, en variante dans un manuscrit du Roeshu, je ne vous l'ai pas indiqué ici, mais je vous le lis à haute voix en japonais d'abord, et pour vous bien vous en dire la teneur, et vous verrez comment il s'articule avec les autres. Yo no naka wa yume ka utsutsu ka utsutsu tomo yume tomo shirazu arite nakereba. Yo no naka wa yume ka utsutsu ka utsutsu tomo yume tomo shirazu arite nakereba. Qu'on pourrait traduire ainsi: ce monde où nous sommes, est-il songe ou réalité? Qu'il soit rêve ou vrai, point ne sait, puisqu'il est sans être. Comme on le voit, l'insistance sur le rêve le mettrait bien dans le prolongement de notre séquence du Roeshu, dont nous avons déjà remarqué qu'il en est un thème résurgent. L'autre raison est d'ailleurs que c'est un poème retenu dans le Kingyokushu de Kinto, qui est un autre recueil poétique fait par Kinto, dont on vient de donner une très belle traduction française à noter, qui est l'œuvre de Michel Vieillard-Baron, sous le titre « Recueil des joyaux d'or ». Ça vient de sortir aux belles lettres, n'est-ce pas ? Nous devons cependant le laisser à regret, ce poème, hors de nos considérations, car nous voyons qu'il s'articule moins bien avec le poème qui le précède que celui que nous abordons à présent. Et l'on verra tout de suite pourquoi les deux poèmes, celui-ci et le suivant, ne pouvaient se trouver ensemble. Donc, nous arrivons maintenant à ce qui est bien le second poème de cette séquence de trois poèmes finale, n'est-ce pas, qui reprend la comparaison de la lune apparue deux citations auparavant, et une comparaison qui émane, nous l'avons vu, du Yui Magyo. Alors là, voici ce poème. Nous n'avons plus à présenter l'auteur Kinotsu Dayuki, dont la notice dit qu'il composa ce poème, conservé dans les glanures poétiques, le Shuishu, alors que, dit la notice, souffrant d'un accès de mélancolie, Yononaka Kokoro Bosoku Oboete, Tsunenaranu Kokochishi Haberikereba. Donc il se sentait mal dans son être. Et en plus de ce qu'on pourrait appeler une sorte de dépression, il avait vu son état maladif s'aggraver. Kono Aida Yamai Omoku Narikeri. Et à cause de cette notice, les lecteurs japonais ont voulu voir dans cette pièce un poème d'adieu au monde, un JC de Kinotsu Dayuki. Mais à l'origine, ce n'est pas explicitement cela. C'est la postérité qui a voulu le faire ainsi. Nous y voyons en tout cas une interrogation sur l'existence. Le voici. Tenemusubu, n'est-ce pas ? Au creux de mes mains s'abrite dans l'eau un reflet de lune. Est-il ou n'est-il pas ce monde où je demeure ? En réalité, ça fait avec le Tsugikage no Arukanakika no Yoni. Vous voyez que le Arukanakika se rapporte à la fois à Tsuki no Kage et à Yo, n'est-ce pas ? Yo no Naka. Donc, mais en français, nous sommes obligés de scinder, sinon ça ferait une phrase impossible. Donc, le mot Yo pouvant signifier monde, âge, génération, durée de vie, Tsurayuki s'interroge à la fois sur l'inconstance du monde, qui est aussi peu consistant que le reflet de la lune dans l'eau qu'il puise au creux de ses mains, et sur le peu d'assurance de voir sa propre existence se prolonger. Nous constatons que le jeu sur Aruka Nakika est trop proche de Arite Nakereba, du poème donc, que nous avons vu, qui n'est pas conservé dans la tradition, pour que les deux poèmes coexistent. Ils ont donc été répartis entre le Roeshu et le Kingyokushu, c'est du moins ce qu'on peut envisager. Par le choix de ces deux poèmes sur l'écume et le reflet de lune, avec plus que jamais en filigrane le rêve, Kinto pourrait conclure sa séquence. C'est d'ailleurs bien ce qu'il fait selon certains manuscrits qui mettent en dernier le poème de Tsurayuki. Mais ce n'est pas la grande majorité. Celle-ci s'accordant à donner la dernière place à un poème tout à fait singulier si on le lit au-delà de sa lettre. Il est l'œuvre du recteur monacal Henjo Sojo, n'est-ce pas ? Qu'on trouve parfois du Sojo Henjo, dont nous avons déjà vu le poème si complexe des perles de rosée sur les pétales de lotus, dans lequel il s'interrogeait sur le vrai et le faux, Il aime beaucoup ces poèmes très ambigus. On ne sait plus où est la réalité, Henri. Et il termine dignement non seulement la série sur l'impermanence, mais tout le recueil du Wakan no Ishu, si l'on exclut la partie Haku, avec ce poème éminemment, je dirais presque controuvé. Ce poème sera d'ailleurs plus tard retenu comme le premier dans la rubrique Aishoka, encore les élégies, du Shinko Kinshu, des nouveaux poèmes de jadis et de naguère. C'est donc un chant de déploration, où il a été pris comme un chant de déploration. Mais nous verrons que ce n'est pas que cela. Le voici, ce chant, ce poème. La rosée sur les ramilles, la goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle Tameshi, pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît. Je le répète parce que nous allons le commenter un peu longuement. La rosée sur les ramilles, la goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît. Comme l'on voit, il n'est guère aisé de traduire ce poème en essayant de garder un minimum de l'image qui le fonde. C'est d'autant plus difficile que l'image ne vient pas du monde phénoménal. Ce n'est pas une observation phénoménale, malgré la lettre, n'est-ce pas, Tsuyu et Shizuku, car il s'agit, oserons-nous dire, d'une image scolastique. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le sens premier du poème, le sens évident pour tous les moines, tous les lecteurs de l'époque, semble en échapper à la plupart des commentateurs, bien que le professeur Sugano mentionne dans sa note un poème à thème bouddhique qui est en effet à rapprocher de celui-ci. Malheureusement, expliquer en détail la doctrine qui sous-tend le poème nous mènerait trop loin. Je dois donc me contenter de dire que Henjo, un bon moine poète de l'école Tendai, fait ici une allusion évidente à l'un des dogmes les plus importants de l'école, celui des 10 incités, Junyose. Ce dogme s'appuie sur un passage du chapitre 2 du Sutra du Lotus qui lie la compréhension de la réalité des choses, le Shōhō-jisō, n'est-ce pas, l'aspect réel des entités, à la perception correcte de la façon dont elles peuvent être saisies par la pensée du pratiquant. Perception qui varie bien sûr selon le degré d'avancement dans la pratique. C'est ainsi que l'entend l'école. Dans le sutra même, c'est la perception par le Bouddha, la perception suprême donc, qui est seulement en cause. Je vous donne en dernier la citation du sutra du Lotus. Vous voyez bien que à la première ligne, vous voyez Shōhō-jisō, n'est-ce pas ? No Kujin Shōhō-jisō. Il peut épuiser l'aspect réel des entités. Et seul le Bouddha peut faire cela, n'est-ce pas ? Un Bouddha avec un autre Bouddha peut faire cela. Et cet aspect réel des entités est ainsi désigné. Nyōze-sō, Nyōze-shō, Nyōze-tai, Nyōze-riki, Nyōze-sa, Nyōze-in, Nyōze-en, Nyōze-ka, Nyōze-ho et Nyōze-hon-matsuku-kyōto. Donc je laisse tomber les 9 premières et vous voyez la dernière qui est ici en gras. Nyōze-hon-matsuku-kyōto, c'est l'incité. Ainsi est la totale égalité, kukyōto, entre Hon Matsu, entre le début et la fin. Nous ne nous interrogerons pas trop sur ce que ça veut dire du point de vue scolastique, mais vous voyez, Moto Sue. Je suppose que c'est déjà assez clair pour vous. N'est-ce pas ? Donc, la dernière des 6 incités, celle qui les reprend toutes, est appelée incité de parfaite égalité du début et de la fin. C'est-à-dire que tout le parcours cognitif opéré par la pensée est en réalité un retour à l'origine, qui n'est jamais différente en son essence des différentes manifestations qui se déploient à tous les niveaux du phénoménal. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les dix incités s'exercent dans les 10 niveaux d'existence, jukkai, n'est-ce pas, jū no sekai. Elles constituent un moyen de les appréhender du plus bas de ces niveaux d'existence, les enfers, jigoku, jusqu'au plus haut, le plan de Bouddha, bukkai, que nous allons voir dans le séminaire tout à l'heure d'ailleurs. Donc voici ce que signifie à peu près cette incité. Et donc, arrêtons-nous là pour revenir au poème du moine Tendai, qui est Henjo, lequel joue bien sûr sur les sens phénoménal et dogmatique à la fois. La rosée, comme chacun sait, précède les gouttes en lesquelles elle se forme pour tomber des feuilles où elle s'est constituée, musubu. Or, dans la nature, ces feuilles et les rameaux où elles poussent sont aux extrémités des arbres, suées, donc, et les gouttes retournent à la racine, vont vers la racine de ces mêmes arbres, moto. La rosée cause et la goutte effet inversent le processus logique, puisque la cause est dans les extrémités et l'effet est dans la racine. Mais en même temps, démontre la validité de cette dixième incité, puisque c'est la totale égalité entre les deux. Début et fin sont parfaitement intégrés l'un dans l'autre. C'est ce que Jien exprime aussi dans un poème sur cette même incité. Je n'insiste pas trop sur ce poème. Vous voyez, Zehon Matsuku Kyoto Onimo Harukurete Kozue no Hana no Neni Kaeri no Kozue. Vous voyez, Kozue comme Sue ici, c'est à prendre dans les deux sens. En parfaite égalité du début et de fin, dit Jien, le printemps s'en allant, la fleur sur la ramille retourne à la racine. La fleur en tombant retourne à sa racine. Le neveu de Jien, Yoshitsune, a composé lui aussi sur la dixième incité un poème qui peut être considéré comme un honkadori de celui de Henjo. Donc, Sue no Tsuyu, Moto no Shizuku, Hitotsuzo to omoi hatete mo, sode wa nurekeri. Même persuadé que la rosée de la fin ne fait qu'une avec la goutte de l'origine, ma manche en est mouillée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut se résoudre, sachant bien que tout est dans tout et réciproquement, sa perception émue du phénoménal ne lui est pas une consolation. Donc, vous voyez que cette... Donc, on peut donc lire ce poème du point de vue phénoménal. L'inversion de la relation rosée-goutte explique... Je retourne... Soenotsuyu, n'est-ce pas ? On peut lire ce poème du point de vue phénoménal, et l'inversion de la relation rosée-goutte explique qu'il est normal que certains meurent avant d'autres. Je ne sais pas si je vous ai donné la... Oui, voilà. Donc, celui qui, tôt ou tard, disparaît, n'est-ce pas ? Donc, certains meurent avant d'autres, c'est l'inégalité de la vie, mais... Dans ce phénoménal, la parfaite égalité, c'est que tout le monde finit à la fin par se laisser emporter par l'impermanence, puisque tout le monde meurt. Mais le sens véridique, le sens véritable du poème est tout aussi présent. Mort et renaissance sont une seule et même chose dans la parfaite réalité du Sutra du Lotus. Car n'oublions pas que ces dix incités se rapportent au Sutra aussi. Il est bien sûr hautement significatif que ce poème vienne conclure à la fois la série sur l'impermanence et le recueil lui-même. Les dix incités étant pour ainsi dire le modèle d'analyse qui mène à la perception de l'aspect réel des entités, elles rendent caduque l'idée même d'impermanence et en constituent l'antidote. Mais en même temps, c'est l'ensemble du recueil qui est mis sous l'éclairage de l'incité de parfaite égalité de début et de fin. Toutes les contradictions, toute la diversité et aussi toutes les idées littéraires et confucianistes, les pratiques taoïstes sont intégrées dans l'aspect réel, ce qui semble être une assez bonne conclusion à notre lecture de passages choisis de ce recueil. Il nous reste à présent à tirer quelques conclusions générales de tout cela, ce que nous ferons au prochain cours, et je vous remercie pour aujourd'hui.